Marie, entre l'Annonciation et la naissance de Jésus, va donc prononcer ce Magnificat, qui est un mélange, dirais-je, un peu maladroit de passages de l'Ancien Testament, et dans lequel il est parfois difficile de trouver vraiment un sens très profond, il faut bien le dire. Pourtant, on l'aime bien, ce texte. Mais en le lisant de plus près, il m'apparaît que Marie est beaucoup moins naïve qu'il n'y paraît, et qu'en fait, elle dit là des choses absolument essentielles, qui sont même, il me semble, un programme complet pour la vie du chrétien et pour la vie du croyant. Ces choses essentielles, elles sont de plusieurs ordres. D'abord, elle montre qu'elle a une théologie très claire de la grâce première. En effet, elle dit « Mon âme magnifie le Seigneur parce qu'il a jeté les yeux sur sa servante ». Et donc, elle montre bien que c'est l'action de Dieu qui est première et que c'est parce que Dieu nous a aimés que nous pouvons lui rendre grâce et que nous pouvons le louer. Déjà dire ça, c'est une affirmation fondamentale, parce que même dans le christianisme, combien n'ont pas prêché que Dieu donnerait ses grâces à ceux qui lui seraient fidèles, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord croire en Jésus-Christ, d'abord avoir la foi, d'abord être fidèle, d'abord glorifier Dieu pour pouvoir bénéficier du salut, de la grâce et de l'aide de Dieu. Là, vous le voyez bien, l'ordre est totalement inversé. C'est Dieu d'abord qui donne la grâce, qui donne le salut d'une façon inconditionnelle, et c'est parce que Dieu m'a aimé que moi, je peux lui rendre grâce, et non pas le contraire. Donc ça, c'est parfait. Marie a une bonne théologie de la grâce, meilleure que beaucoup des croyants même d'aujourd'hui. Mais surtout, je pense qu'il y a là quelque chose de bien plus profond là-dedans. Parce que les deux premières affirmations du Magnificat, « Mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur », posent des problèmes extrêmement importants. Le premier, c'est « Mon âme magnifie le Seigneur ». En français courant, ça veut dire « Mon âme fait grandir Dieu, mon âme fait s'élever Dieu ». L'idée est belle, mais la question que se sont posées les théologiens depuis longtemps, c'est comment peut-on rendre grand celui qui est déjà le plus grand ? Comment peut-on magnifier celui qui est déjà le magnifique ? Comment peut-on hausser celui qui est déjà le très haut ? En soi, c'est idiot. Alors, les théologiens se sont posés ces questions et j'ai trouvé chez un d'entre eux, Origène, que j'aime beaucoup, Origène d'Alexandrie, deux réponses possibles. Origène dit, bien sûr, il ne s'agit pas d'élever Dieu qui est déjà très haut, mais il s'agit de magnifier, de rendre grand l'image que j'ai de Dieu. Et du coup, ce qu'il propose, et ce que proposent, je crois, les bons théologiens, c'est de dire que ce Magnificat n'est pas l'expression naïve d'une jeune fille qui a la foi et qui dit « Dieu est extraordinaire, Dieu est magnifique, Dieu est grand », mais c'est un programme, c'est le programme de sa vie et c'est ce que veut faire Marie, c'est-à-dire d'agrandir Dieu. Et elle dit « Bien, puisque j'ai été graciée, moi je veux agrandir Dieu ». Et c'est aussi le programme qu'elle nous invite à suivre, parce que Marie est bien le modèle des croyants et il est pour nous, je dirais, l'image de l'humanité qui accueille la volonté de Dieu. Et donc, autrement dit, Marie nous invite dans ce Magnificat à faire comme elle et, dit Origène, donc première solution, à agrandir l'image que nous avons de Dieu, agrandir dans notre esprit l'idée que nous avons de Dieu. C'est-à-dire lui donner une place plus grande, qu'il devienne une réalité plus essentielle, plus importante, parce qu'il faut avoir une très grande idée de Dieu. Et peut-être que trop souvent, certains d'abord ont une idée très faible de Dieu, ou d'autres encore, même parmi les bons croyants, ont l'idée d'un Dieu qui n'est pas très grand. Et ce qu'il faut pour que Dieu soit efficace dans notre vie, c'est que nous agrandissions cette image et cette idée de Dieu. On a la même chose dans le Notre Père. Quand nous demandons à Dieu que ton nom soit sanctifié, là encore c'est curieux, comment rendre saint celui qui est déjà le summum de la sainteté? A priori, ça n'est pas possible. Et on dit bien que ce que cela veut dire, c'est qu'il faut sanctifier Dieu dans notre esprit, c'est-à-dire donner à Dieu la place sainte qu'il mérite dans notre vie. Et c'est son nom qu'il faut sanctifier, c'est-à-dire la relation que nous avons à lui, c'est-à-dire l'image que nous nous en faisons. Et donc ce qu'il faut, c'est que nous arrivions à revaloriser dans notre esprit l'image que nous avons de Dieu, et que ce soit dans notre esprit, par ailleurs plein de préoccupations diverses et variées, que la préoccupation de Dieu prenne une place particulière et de plus en plus grande. Et donc, vous disais-je, je crois que Marie, justement, ne décrit pas l'état dans lequel elle se trouve, mais elle montre là un travail de la foi, c'est-à-dire, je veux grandir Dieu dans ma vie. Et donc, voyez-vous aussi, ce Magnificat ne nous fait pas assister passivement au bonheur d'une jeune vierge, où on se dit, elle a bien de la chance, Marie, elle est contente. Oui, évidemment, Dieu lui propose de porter le Messie, donc elle a de la chance. Mais le Magnificat ne nous met pas, passivement dans un état d'observateur, mais nous invite, vous disais-je, à le suivre et à y trouver une leçon de bonheur et de vie. Et je crois que, justement, la leçon, c'est qu'il y a là une démarche active à avoir. Et Origène va encore plus loin en disant qu'il s'agit non seulement d'agrandir l'image de Dieu, c'est-à-dire l'idée que nous en avons, mais même de faire grandir Dieu dans son âme. En effet, Marie dit bien « mon âme magnifie l'Éternel ». C'est-à-dire que Dieu, c'est plus qu'une idée, voyez-vous. Et Dieu, c'est une réalité, je crois, qui peut être présente dans nos vies. Et moi, dans ma vie, Dieu peut être une source de joie, de bonheur et de vie. Et nous devons travailler à faire grandir cette réalité qui est là dans notre cœur. Et nous pouvons souhaiter que cette réalité de Dieu, qui est vraiment, je crois, une source de plein de choses extraordinaires dans notre existence, cette présence de Dieu, nous pouvons souhaiter qu'elle puisse grandir et qu'elle puisse finir par prendre de plus en plus de place, en quelque sorte, et qu'elle devienne une source de plus en plus abondante de joie et de plein de bienfaits. Et du coup, je me dis que, cette image que Marie nous donne là, de faire grandir Dieu dans son cœur, de faire grandir la place de Dieu dans notre esprit, dans notre âme, c'est quelque chose qui est imagé par sa propre grossesse, pourrions-nous dire. Parce qu'en effet, en elle, il y a, cette présence de Dieu qui est le petit Jésus dans son sein et qui est appelé à grandir dans son ventre. Alors pour Marie, le Magnificat, il est dit entre l'Annonciation et la naissance. Donc ce Magnificat, dit par des mots la grossesse de Marie. Mais là encore, il ne faut pas en rester à des histoires de grossesse. Parce que, je vous l'ai dit, Marie, c'est l'image de notre propre existence. Donc nous sommes tous des Maries, en quelque sorte, avec, au fond de nous-mêmes, une présence de Dieu qui est appelée à grandir et à prendre de plus en plus de place. Et nous sommes tous, comme Marie, appelés à être fécondés par le Saint-Esprit et à laisser le Saint-Esprit opérer en nous pour qu'il mette au fond de nous-mêmes une graine d'esprit, d'espérance, d'amour, de joie et de vie, et que cette graine qui est en nous-mêmes, dans notre âme, elle est appelée à grandir. Et pour ça, ça ne se fait pas tout seul, parce que la grossesse naturelle se fait toute seule, mais d'être enceinte de Dieu, c'est un travail que nous devons avoir en permanence pour faire grandir cette présence de Dieu qui est dans notre cœur et qu'elle prenne de plus en plus de place. Et du coup, j'aime cette image parce qu'on peut la pousser même un peu plus loin en disant, quand Dieu grandit dans notre âme, eh bien, nous sommes tout heureux avec cette présence chaude, je dirais, de Dieu qui nous aime, de cette présence de la vie qui est dans notre être, de cette présence de l'Esprit et de Dieu dans notre existence. Et au début, eh bien, nous sommes comme la femme enceinte qui est toute heureuse avec son petit bébé qu'elle porte et elle trouve ça formidable, de plaisir un peu égoïste, je dirais, qui fait qu'elle, elle en est très heureuse et les autres s'en fichent un peu. Mais à un moment donné, cette présence est tellement importante qu'elle finit par être obligée de sortir. Et à ce moment-là, les autres en profitent. Eh bien, c'est ça. C'est que chez le croyant, c'est la même chose. Cette joie du croyant, qui est cette présence de Dieu dans son esprit, eh bien, ça peut, à un moment donné, non seulement le réjouir, et à un moment donné, il faut aussi que ça sorte et que ça puisse profiter à d'autres. Et ça, c'est la joie rayonnante du croyant et du fidèle qui est appelé à professer sa foi et à partager sa joie avec d'autres et à faire en sorte que cette réalité ne soit pas un plaisir égoïste pour lui tout seul. On a ça dans des tas de passages de la Bible, avec par exemple ces paraboles que donne Jésus, comme celle du grain de moutarde, où il dit que la foi c'est comme un grain de moutarde, une toute petite chose qui au début semble très peu de choses, rien du tout, et qui grandit pour devenir à la fin comme un arbre dans lequel même les oiseaux du ciel, c'est-à-dire le Saint-Esprit, peut venir. Alors tout ça, c'est, je crois, assez vrai, et pour ça, eh bien, nous sommes invités à nous remplir de la puissance de vie, de joie de Dieu, qui fait qu'on peut ensuite rayonner pour le monde. Mais pour ça, la première chose à faire, c'est de faire grandir Dieu dans son âme et dans sa vie. Donc ça, c'est la première belle chose à laquelle nous sommes invités pour vivre le Magnificat. Jusqu'à présent, c'est simple. Mais maintenant, on en arrive à quelque chose de plus compliqué. C'est le deuxième secret que nous donne Marie. Secret moins évident, mais peut-être encore plus important que le premier. Et vous allez l'entendre, je crois, beaucoup plus original. Le deuxième secret, c'est Marie qui le dit. Juste après, mon âme fait grandir le Seigneur. Elle dit, « Et que mon esprit se réjouisse en Dieu le Sauveur. » Que mon esprit se réjouisse en Dieu le Sauveur. Et là aussi, je crois que nous ne sommes pas dans une constatation. Je ne crois pas que ce soit Marie qui dise « Ah ben je suis bien heureuse, tiens, et je suis bien contente en Dieu ». Ce n'est pas cette espèce d'expression un peu bête, je dirais, de Marie qui dirait « Je suis toute guette ». Et on s'en fiche un peu, je dirais « Marie, elle est contente, tant mieux ». Mais moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais de ça ? Je crois que là aussi, il s'agit d'une démarche volontaire, c'est-à-dire d'un principe de vie, et que Marie a en fait une sorte de volonté de faire là-dedans. Elle dit, je veux que Jésus, que Dieu grandisse dans mon cœur, et moi, ce que je veux, c'est me réjouir en Dieu, mon Sauveur. C'est-à-dire qu'elle choisit la joie, et elle choisit de le prendre bien. Et Marie choisit de se tourner vers le bonheur, en quelque sorte. Et ça n'est pas évident. Parce que Marie aurait pu mal le prendre. Elle aurait pu dire, mais attends, Seigneur, tu sais que ça ne va pas être facile, cette affaire. Si moi, je me retrouve enceinte, sans père déclaré, dans cette société, je vais être exclu, rejeté, jugé. Alors comment peut-elle dire, merci Seigneur ? C'est parce qu'elle choisit de se réjouir dans le Seigneur. Et donc, je prétends que nous avons là la deuxième leçon que nous donne Marie, c'est que, eh bien, il faut essayer d'apprendre à se réjouir en Dieu. Alors c'est là où ça semble compliqué, parce que on pourrait dire qu'être heureux ou être malheureux, c'est une question d'état et qu'on fait un peu ce qu'on peut. Et pourtant, je trouve dans la Bible autre chose. Et c'est vrai que moi-même, j'ai souvent prêché plusieurs fois sur le bonheur, en essayant de vous dire quelles sont les origines du bonheur, ou comment être heureux, quelles pourraient être les causes qui pourraient nous rendre heureux, et comment on peut faire en sorte d'arriver à être heureux. Je crois que c'est une erreur, et que la Bible elle-même nous dit que le bonheur, dans certains passages en tout cas, ce n'est pas par rapport à une cause, c'est un choix de vie. Par exemple, Paul, en 1 Thessaloniciens 5, verset 16, nous donne ce commandement étonnant : soyez toujours joyeux. C'est étonnant et très remarquable. C'est remarquable d'abord parce que c'est le verset le plus court de la Bible, c'est bon à savoir, que deux mots : pantote heirete, soyez toujours joyeux, point. Comme une sorte d'ordre et de commandement, dont Paul dit d'ailleurs, et c'est même là à votre égard la volonté de Jésus. C'est-à-dire que vous voulez être chrétien, eh bien soyez joyeux. Vous me direz, mais je fais ce que je peux. Eh bien non, on ne fait pas ce qu'on peut. Le bonheur peut être un acte de volonté, c'est-à-dire un choix de voir les choses dans le bon sens, un choix de voir les choses du côté positif. Et le bonheur, c'est une option de vie. Il y a des gens qui choisissent d'être malheureux en prenant tout de travers, et on peut choisir d'être heureux en prenant les choses dans le bon sens. Eh bien, Paul nous dit, et il a raison, choisissez la vie, choisissez le bonheur, et pour commencer, choisissez de prendre les choses dans le bon sens. Si vous ne faites pas ça, eh bien, à l'avance, tout est perdu. Et donc, soyez toujours joyeux. Il dira encore, d'ailleurs aussi, dans Philippiens 4, « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je vous le répète, réjouissez-vous. » Et à un autre endroit, « Au reste, frère, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses pour vous, car ça, c'est salutaire. Donc, réjouissez-vous, c'est un commandement, soyez joyeux. » Et ça, c'est important. C'est important parce que je crois que, pour en revenir à Marie, Dieu ne peut grandir que dans le terreau de la joie. Dieu ne peut pas grandir dans l'aigreur, dans le ressentiment, dans la culpabilité, dans le remords ou dans l'acrimonie. Et quand on choisit de rester concentré sur toutes ces choses négatives, eh bien, nous stérilisons notre existence et nous nous rendons inaptes à aimer, inapte à accueillir Dieu, inapte à accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile, inapte non seulement à être heureux, mais même à donner la vie autour de nous. Et donc, je le crois, il faut accepter d'être heureux, accepter d'être libéré, accepter d'être pardonné, accepter d'être sous la grâce. Et ça, on nous reproche trop souvent que dans les églises, on n'arrête pas de dire aux gens « Vous êtes sauvés, la grâce et la paix vous sont données. » Et vous dites « Mais on le sait, on le sait, on le sait. » Mais si vous le savez, soyez heureux. Pourquoi est-ce que vous continuez à vivre comme des gens malheureux? Vous avez le plus grand des dons de la vie. Vous êtes aimés, vous êtes sauvés, vous êtes pardonnés. Et vous continuez à faire la gueule. Mais ça veut dire que vous prenez tout à tout de travers, voilà. Et si vous prenez tout de travers, Dieu pourra toujours vous dire toute votre vie qu'il vous aime et qu'il vous sauve. Si dès qu'on vous dit une bonne nouvelle, vous partez en courant dans l'autre sens, je ne peux plus rien pour vous. Voilà. Et donc Paul nous dit, choisissez d'être heureux. Choisissez enfin d'entendre les bonnes nouvelles. Choisissez d'accepter que vous soyez aimés. Choisissez d'écouter le bien, la vie et la joie. C'est tout. Alors en effet, je crois que Marie, justement, eh bien elle fait ça. Elle nous montre que c'est son état d'esprit d'être heureuse, mais que c'est plus que ça, c'est un principe de vie qu'elle expose. J'ai choisi que mon âme se réjouisse dans le Seigneur. C'est mon choix. Et de là pourra naître le Seigneur Jésus. Il ne peut pas naître dans la tristesse. Vous le savez, peut-être, la tristesse, c'est l'un des péchés capitaux. Ça n'apparaît pas tout de suite, mais dans les sept péchés capitaux de l'Antiquité, enfin de l'Ancien Temps, il y a ce qu'on appelait en latin ou en grec l'acédie, acédia, A-C-E-D-I-E, l'acédia. L'acédie qui a été traduit souvent par la paresse, en fait, il s'agit, l'acédie, c'est la tristesse. Et c'était considéré par les théologiens de l'Ancien Temps comme une des plus graves maladies de l'âme. Alors c'est difficile à comprendre, mais pourtant c'est vrai, je le crois. La tristesse, la négativité, je dirais, c'est un poison qui tue soi-même, qui tue les autres. La tristesse, c'est une offense à la vie, c'est un barrage à l'amour, c'est un refus de la grâce. Et donc c'est extrêmement grave, vous dirais-je. Autrement dit, le chrétien, comme Marie, est invité simplement à, une fois pour toutes, choisir la joie. Alors attention, cela dit, j'ai conscience que les choses ne sont pas toujours simples. Et que d'abord, je ne parle pas, là, de ceux qui sont frappés par une épreuve ou d'un deuil et qui peuvent être momentanément dans le désarroi, dans la tristesse ou dans les larmes. La tristesse peut être un état transitoire, mais s'il est normal d'avoir une dépression quand on a perdu un être cher, c'est plus grave quand ça demeure et quand ça devient un principe d'existence, je dirais. Et donc, avoir de la tristesse momentanément parce qu'on est éprouvé est une chose tout à fait normale qui ne relève pas de ce principe, de ce péché capital de la tristesse. C'est simplement qu'on fait ce qu'on peut dans la vie. Ensuite, je ne parle pas non plus de ceux qui sont, je dirais, pathologiquement dépressifs. Parce que j'ai beau dire que le bonheur est un choix de vie, tout ce qui nous arrive n'est pas toujours, peut pas toujours être géré par la simple volonté. Et on ne peut pas toujours choisir volontairement d'être joyeux quand on ne l'est pas. Et la dépression peut être un état pathologique qui ne relève pas de la foi. Et je ne pense pas que la prière et la foi puissent nous guérir de toutes nos pathologies. Et donc il y a des cas où une dépression pathologique, je dirais, ne relève pas de ce dont je parle, et que dans ce cas-là, il y a une nécessité de traiter, je dirais, par des thérapies d'un ordre ou d'un autre. Mais ce dont je parle, c'est pour la vie quotidienne, c'est-à-dire de faire en sorte que pour au moins tout ce qui dépend de ma volonté, que je choisisse de voir les choses du bon côté. C'est-à-dire de choisir de regarder le bien et non pas le mal, de choisir de voir le verre à moitié plein plutôt que de le considérer comme à moitié vide. Alors vous me direz, c'est de la petite morale de bas étage. Eh bien peut-être, mais peut-être pas, pas tant que ça. Pour le reste, on fait ce qu'on peut, effectivement, et on n'y arrive jamais parfaitement dans tous les cas. Mais je pense que même si on n'y arrive pas totalement, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer et ce n'est pas une raison pour ne pas progresser dans son sens. Paul nous dit « Je suis à même de vouloir le bien, mais non pas de l'accomplir. » Et donc je ne dis pas que si vous n'êtes pas toujours joyeux, vous offensez le Seigneur. Mais ce que je dis, c'est que si vous ne cherchez même pas à être heureux, là oui, il y a un problème. Et donc vous disais-je que la gaieté, le bonheur, c'est un mode de vie que l'on peut choisir de se tourner dans le bon sens. C'est-à-dire, je vous l'ai dit, de choisir de regarder le bien et non pas le mal. Et du coup, j'ai trouvé ça dans cette lettre de Paul aux Thessaloniciens, qui m'a toujours semblé être finalement quelque chose d'un peu moralisateur. Quand il dit « ne rendez pas le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien », je croyais que ça voulait dire « ne faites pas des mauvaises choses, mais faites des gentilles choses ». Mais je ne crois pas que ce soit ça. Finalement, dans ce passage où Paul dit « soyez toujours joyeux », il dit « ne rendez pas le mal pour le mal, mais recherchez le bien ». C'est bien ce que je vous dis. C'est-à-dire quand il y a du mal, eh bien, ne vous tournez pas sur le mal, mais, au contraire, recherchez le bien. Ensuite, il dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. C'est pareil. Je n'ai jamais compris ce passage. Je croyais que ça voulait dire réfléchissez et puis gardez ce qui vous semble correct intellectuellement. Mais non, c'est-à-dire regardez toutes choses dans votre vie et retenez ce qui est bon. C'est-à-dire ne gardez que le meilleur et le mauvais, vous le jetez, vous l'oubliez, vous n'en tenez pas compte, vous ne le regardez pas, vous tournez la tête par rapport au mauvais, par rapport au mal, par rapport à tout ce qui est négatif, vous ne le regardez pas. C'est un choix, ça. Et Dieu agit comme ça pour nous. Dieu, en nous, il nous sauve parce qu'il ne garde que le meilleur de nous-mêmes. Et le moins bon de nous-mêmes, il s'en fiche. C'est jeté dans la décharge de Jérusalem qui s'appelait la Géhenne. Le mauvais, je ne veux pas en entendre parler. Je ne garde que le meilleur. On nous dit dans l'Évangile que Dieu garde le bon grain et qu'il l'amasse dans son grenier, ça il le garde. Eh bien le fidèle, le croyant, est appelé à vivre comme ça, c'est-à-dire dans la vie, dans tout ce qu'il observe, garder le meilleur et en faire sa pelote pour se vivre avec une pelote de bonheur, garder ce qui est bon et d'oublier simplement le reste et ensuite de rendre grâce. Paul dit encore dans ce même passage de 1 Thessaloniciens 5, rendez grâce en toute chose. Ça, c'est étonnant aussi. Rendez grâce en toute chose. Eh bien, ça veut bien dire que quoi qu'il arrive, quel que soit l'événement, quelle que soit la personne à laquelle vous êtes confronté, trouvez le moyen de rendre grâce. C'est-à-dire, je rends grâce, eh bien, peut-être pas pour tout, parce que tout est mélangé, il y a du mal en tout et chez les gens, dans les événements, mais je trouvais le moyen dans toute chose de rendre grâce pour quelque chose dans cette chose. Et je crois que ça, c'est la base de tout le comportement évangélique. Tenez, l'amour, par exemple. On nous dit qu'il faut aimer, mais l'amour, aimer, c'est regarder le positif et non pas le négatif. Dans toute personne, il y a du bien et du mal. Et aimer, c'est choisir de ne pas tenir compte du mal. C'est tout. L'amour, c'est un choix. Et le pardon, c'est la même chose. Le pardon, accepter de ne pas garder en compte l'offense, effacer la dette, ça aussi c'est un choix. Sinon, je resterai sans cesse sous la puissance maléfique de ce mal qui a été fait. Et donc, vous disais-je, le bonheur, on a essayé d'en trouver le chemin. En fait, je crois que le bonheur, c'est simplement un choix de vie. Choisir d'être heureux plutôt que malheureux, choisir d'être content de ce que l'on a plutôt que de toujours désirer plus, choisir de se satisfaire de ce que l'on est, choisir de s'accepter comme on est, accepter de ne pas être coupable, mais de vivre de la grâce. Et être malheureux, c'est une offense à Dieu, c'est même un manque de foi. C'est un manque de foi en Dieu parce que en Dieu nous avons toutes choses et quand on dit « réjouissez-vous dans le Seigneur », cela veut dire que même si vous n'avez pas dans votre vie matérielle et terrestre toutes les raisons d'être heureux, et même si vous n'en trouvez pas, il y a au moins un lieu où vous pouvez trouver du bonheur, c'est en Dieu. Parce que même, nous dit le psaume 103, même si mon père et ma mère m'abandonnaient, le Seigneur, lui, me reçoit. Et là, en lui, il y a une source de bonheur et de joie intarissable et inconditionnelle. Et donc, même si votre vie ne vous convient pas, tournez-vous vers Dieu et dites en Dieu, eh bien, ma grâce te suffit. La grâce, l'amour de Dieu, de quoi avons-nous besoin d'autre, finalement, pour être heureux ? En Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut, et je crois en plus qu'il y a en Dieu une puissance de bonheur réel qui peut me transformer et me rendre heureux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il grandisse en nous, qu'il soit de plus en plus présent une source de joie. Et pour ça, eh bien, il faut pouvoir l'accueillir, et puis il faut aussi apprendre à rechercher la grâce de Dieu. Et peut-être que la clé de cela se trouve dans le deuxième verset le plus court de la Bible. Bon, le premier, je vous l'ai dit. essentielle. Soyez toujours joyeux, réjouissez-vous toujours, deux mots. Il y a un deuxième verset, le plus court de la Bible. Il y a que deux versets dans le Nouveau Testament qui ont deux mots. Il y a 1 Thessaloniciens 5, 15, que je vous ai dit tout à l'heure. Et puis, il y a 5, 16, pardon. Et puis, il y a le suivant, le 1 Thessaloniciens 5, 17. Deuxième verset le plus court de la Bible, deux mots aussi. Adialepos prosefkeste. Ça veut dire prier sans cesse. Voilà, prier sans cesse. Eh bien, le bonheur, oui, c'est un choix, et pas toujours facile, je le reconnais, mais nous avons un autre recours encore, c'est celui de la prière. Eh bien, priez. Demandez à Dieu de vous aider dans ce chemin, demandez à Dieu qu'il grandisse dans vos cœurs, demandez à Dieu qu'il vous rappelle sans cesse dans vos esprits combien il vous aime, demandez à Dieu qu'il vous comble de son amour, de sa grâce, demandez à Dieu son esprit, demandez-lui sa joie, sa force et sa paix. Si vous le lui demandez, Dieu est fidèle et vous le donnera. Et je dirais que après, même nos faiblesses, même nos manques, eh bien, peuvent être justement parfois des chances, parce que ce sont des espaces où nous pourrons dire « là, il y a un manque et donc je peux le remplir avec du Dieu ». Et tout ce que vous remplissez avec du Dieu, eh bien, c'est tout bénéfice pour votre joie, votre bonheur et votre vie. Et c'est ce que dit Paul, d'ailleurs, quand il entend cette phrase essentielle, alors qu'il doute de beaucoup de choses. Dieu lui dit « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans ta faiblesse ». Marie dit la même chose. Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. « Eh bien, je suis peu de choses, mais moi, j'ai deux idées. L'une, c'est que Dieu grandisse dans ma vie, et oui, c'est bien cela, ce que dit Marie, n'est-ce pas, que mon âme magnifie le Seigneur, et je choisis la vie, je choisis la joie, et moi je dis que mon esprit se réjouisse en Dieu mon Sauveur. Amen. »